Aujourd'hui, je reçois Françoise Bonnardel pour parler de l'alchimie. Françoise Bonnardel, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes philosophe, écrivain, professeur de l'université à Paris-Sorbonne et vous avez écrit de nombreux ouvrages et articles. Alors j'ai avec moi sur le plateau les deux derniers, donc une anthologie passionnante de textes alchimiques philosophés par le feu aux éditions Almora et puis La voie hermétique, introduction à la philosophie d'Hermès. Alors nous allons parler d'un sujet très particulier, l'alchimie, qui est assez méconnue finalement, à part savoir, et encore vous allez peut-être nous expliquer que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, que les alchimistes cherchent à transformer le plomb en or. L'alchimie, vous allez nous expliquer, est un courant spirituel, initiatique, transversal, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses et hors de traditions religieuses, qui existent depuis fort longtemps. J'ai envie qu'on commence peut-être par simplement le mot alchimie. Qu'est-ce qu'il signifie ?
Alors, le mot alchimie vient de l'arabe alchimia et signifie tout simplement alchimie, enfin ce qu'on a traduit ainsi. La vraie difficulté commence quand on cherche à comprendre ce que veut dire vraiment chimia. Alors, au sens le plus courant du terme, on a pris l'habitude de considérer, et ça n'est pas sans fondement d'ailleurs, que l'alchimie c'était la transmutation des métaux vils et en particulier du plomb en or. Ce qui a permis d'ailleurs, au XIXe siècle, de détruire en quelque sorte la tradition alchimique en considérant que l'alchimie était l'ancêtre de la chimie et qu'à partir du moment où la chimie scientifique avait fait des progrès suffisants, il n'y avait plus de raison de prendre en compte l'alchimie et de s'intéresser à cette science occulte ou à cet ésotérisme d'un autre âge. Alors, tel n'est évidemment pas mon point de vue. Étayé par une longue pratique du corpus alchimique. Et dans ce corpus, il apparaît très clairement que l'alchimie est une pratique qui, effectivement, travaille sur la matière. Enfin, la matière est bien sûr la donnée première sur laquelle opèrent les alchimistes, mais que ce qu'ils visent, c'est une sorte de sotériologie, si on peut dire, c'est-à-dire une sorte de voie de rédemption et de salut qui, d'ailleurs, comporte des aspects religieux et initiatiques. Donc, je dirais qu'il y a l'aspect profane et l'aspect initiatique de l'alchimie.
Et est-ce que les deux sont historiquement liés ou séparés ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui cherchaient à faire une transmutation des métaux sans quête spirituelle particulière, et puis d'autres qui étaient, pour qui cette transmutation des métaux était le symbole, d'une certaine manière, d'une transformation intérieure, d'une recherche de salut ?
Alors, je crois que ça dépend des époques. Bon, il est certain que, par exemple, à partir du XVIIe siècle, il y a eu tout un courant théosophique qui s'est greffé sur le courant alchimique, qui était lui-même d'ailleurs en voie de disparition ou au moins de décadence. Mais je dirais qu'en ce qui concerne tous les grands alchimistes classiques, si l'on peut dire, entre le XIIe et le milieu du XVIIe à peu près, ces grands alchimistes travaillent conjointement sur ces deux plans. C'est-à-dire que la spécificité de l'alchimie par rapport à des voies spirituelles religieuses, c'est de prendre en compte la matière et de considérer que c'est à partir de la matière et de sa transformation qu'il y a une voie de salut, de délivrance, de rédemption. Autrement dit, la matière est partie prenante de ce processus. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'alchimie. C'est pour cela qu'on parle d'elle aussi comme d'une cosmologie. C'est donc une manière d'entraîner, en quelque sorte, la création entière dans un processus de régénération, de rédemption, selon les contextes.
De perfectionnement, finalement.
De perfectionnement. Alors, à ce sujet, il y a d'ailleurs deux interprétations un peu différentes. Soit on rattache l'alchimie à un courant chrétien, et à ce moment-là, on considère que la matière, si vous voulez, est l'expression du péché originel et de la déchéance qui est liée au péché originel. Et à ce moment-là, il y a une véritable rédemption qui doit être opérée par la pratique alchimique. Dans d'autres textes, et cela permettrait un rapprochement avec les textes d'Asie, par exemple, on considère simplement que la matière est immature, que la création est inachevée, et qu'il appartient à l'alchimiste de la parachever.
Ce qui rejoint l'intuition du zoroastrisme, hein, puisqu'on sait que les Gathas, ces textes probablement rédigés par Zarathoustra, parlent d'une création inachevée, mm-hmm. et que finalement, la différence d'ailleurs entre le dieu juif et le dieu de Zoroastre, c'est que Ahura Mazda a besoin des hommes pour perfectionner la création, aller jusqu'au bout de son accomplissement.
Exactement.
Ce qui est l'intuition alchimique.
Exactement. Donc c'est le thème du parachèvement, de l'accomplissement qui prédomine sur celui d'une rédemption par rapport à une chute.
Oui.
Donc on voit ces deux scénarios plus ou moins présents selon les textes.
Et alors, vous nous avez dit tout à l'heure, donc c'est une traduction, le mot alchimie, d'un mot arabe. Donc on voit bien que c'est probablement, j'imagine, par les Arabes que l'Occident chrétien a connu l'alchimie, mm-hmm. on va dire moderne, même si on n'est qu'au Moyen-Âge.
12e siècle.
Oui. Donc l'alchimie était présente dans les différentes traditions juives, chrétiennes, musulmanes. Mais il y a une matrice commune, et c'est ça,
oui.
qui est très intéressant, notamment dans votre livre La Voie hermétique, c'est que vous montrez que la matrice commune de toutes les courants alchimiques de notre ère tirent leur source dans l'Antiquité, dans ce fameux courant hermétique. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous nous parlez d'un fameux Hermès. Mmh. Qui est Hermès ? Mmh. A-t-il vraiment existé ?
Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que effectivement, il y a eu une transition et une transmission qui s'est faite par le monde arabe, mais les alchimistes arabes eux-mêmes s'était inspiré des alchimistes grecs et de ce fonds alchimique grec et égyptien, puisque c'est dans ce Moyen-Orient égyptien et grec que l'alchimie occidentale trouve son origine. Alors, la personnalité d'Hermès est extrêmement complexe, puisqu'effectivement, il ne faut pas confondre d'emblée l'hermétisme et l'alchimie. Bon. À savoir qu'il y a une tradition hermétique qui est née entre, disons, le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e ou 3e après, à peu près, et qui constitue ce qu'on appelle les Hermetica. Les Hermetica, c'est l'ensemble des textes qui sont attribués à ce fameux Hermès Trismégiste, hein, trois fois très grand. Bon, c'est un personnage mythique qu'on a souvent assimilé à un sage oriental. Enfin, c'est comme cela qu'il apparaît, en tout cas, dans l'iconographie de la Renaissance, sur le fameux pavement de la cathédrale de Sienne en particulier. Donc, cet Hermès Trismégiste celui à qui on a attribué ces textes, et en particulier le Corpus Hermeticum. Alors, pour être simple, je dirais qu'il y a là une philosophie de la nature qui est aussi une gnose, mais une gnose non dualiste.
Oui,
c'est ce qui la distingue.
Parce que justement, c'est même fondamental,
voilà,
comme séparation. C'est-à-dire, vous voulez dire une gnose dans le sens où c'est une connaissance initiatique,
voilà.
mais qui ne considère pas que la matière est mauvaise.
Exactement. Et c'est tout à fait ça. Donc, c'est une gnose au sens d'une connaissance révélée et libératrice, mais ça n'est pas une gnose dualiste, qui est incompatible avec l'esprit de l'alchimie. Donc, de cette matrice qui est plus philosophique et religieuse, disons, est issue, mais d'une manière qui est assez mystérieuse, cette tradition spécifiquement alchimique, qui est comme, si vous voulez, c'est comme les deux branches d'un même courant, et les alchimistes se réfèrent pratiquement constamment à un Hermès, mais dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il soit exactement le même que cet Hermès trismégiste. Donc en fait, ce n'est pas tellement gênant, parce que Hermès est un personnage polymorphe, n'est-ce pas, qui a connu des avatars successifs au cours des âges. Et je crois que ce qui importe au fond, c'est l'esprit. Jung a parlé à ce sujet de l'esprit Mercure. Or, je crois que ça, c'est très important, parce qu'en fait, peu importe l'identité exacte d'Hermès, qui de toute façon est un personnage mythique, ce qui importe, c'est l'esprit Mercure.
C'est un messager.
C'est un messager, c'est un médiateur, c'est un transmetteur, et surtout, c'est celui qui, sous quelque forme qu'il se présente, c'est-à-dire Hermès trismégiste, le Mercure des alchimistes, ou bien l'Hermès Thoth
des
Égyptiens, ou bien Hermès Mercure latin, c'est un personnage qui, d'une part, a l'accès au monde invisible. C'est le conducteur des morts, enfin celui qui conduit les âmes dans l'au-delà, chez les Grecs et chez les Égyptiens. Donc c'est celui qui a l'accès au monde invisible, c'est l'inventeur des sciences occultes, etc. Et en même temps, c'est celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Il y a très nombreux textes le décrivent comme le médiateur, c'est-à-dire celui qui maintient l'unité qui est aujourd'hui tellement brisée, n'est-ce pas, entre justement le haut et le bas.
C'est presque une figure christique, puisque dans la théologie chrétienne, Jésus est bien le médiateur entre le ciel et la terre.
Exactement, ce qui explique d'ailleurs...
On est en temps pascal là, donc
oui,
on vient de vivre
voilà.
Pâques, donc c'est intéressant d'en parler.
Mais ça explique aussi pourquoi saint Augustin a pris la précaution dans la Cité de Dieu, n'est-ce pas, quand il récapitule les philosophies païennes, en tant que pierre d'attente, en quelque sorte, du christianisme, prend bien la précaution quand même de dire que certes, Hermès est un médiateur, mais ce n'est pas le vrai médiateur. Bon, mais ça, c'est la position d'auteurs chrétiens,
mais
tout à fait.
Alors, on retrouve cette fonction donc, de médiation et de réparation aussi, ou pas ? Parce qu'il y a une notion, chez le Christ, il y a à la fois une notion de médiation, et c'est le souverain pontife, avant d'être...
Oui.
Faut pas oublier que le titre de souverain pontife, il est attribué au Christ avant d'être attribué au pape. Et donc, au fond, c'est celui qui relie, ça veut dire le pont qui relie.
Oui.
Mais le Christ, il y a à la fois cette fonction de relier et de réparer, il restaure, c'est la rédemption. Est-ce qu'il y a cette notion-là aussi chez Hermès ?
Chez Hermès, ça ne se présente pas exactement de cette manière, dans la mesure où, pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait eu endommagement. Donc, ça renvoie à ce que je disais
tout
précédemment
oui.
sur ces deux scénarios. Mais disons que le parallèle avec le Christ est d'autant plus légitime que nombre d'alchimistes ont associé la quête de la pierre philosophale et la mort et la résurrection du Christ. Donc, le thème du lapis Christus, qui a été tellement mis en lumière par Carl Gustav Jung,
Que ça veut dire, lapis Christus ?
Lapis Christus, ça veut dire la pierre, la pierre philosophale, et Christus, le Christ. Donc, le Christ comme pierre, et la pierre comme médiation christique. Donc, ce parallèle est tout à fait pertinent.
C'est quoi la pierre philosophale ? Rappelez-nous.
Alors, la pierre philosophale, c'est une des formulations pour dire, pour exprimer, pour suggérer la finalité ultime de l'œuvre alchimique. Donc, on parle tantôt d'androgyne, de rébis, de créature double. Tantôt, on parle de pierre philosophale. Donc, les formulations, si vous voulez, peuvent varier. Tantôt d'or, bien sûr, d'or philosophale. Mais ce qui importe, c'est de comprendre que dans tous les cas, ce produit ultime, en quelque sorte, de la quête alchimique est toujours le fruit d'une coïncidence des opposés. Donc, d'une union du ciel et de la terre, en quelque sorte, pour être simple. Embryo vento v'amore equita vicor novo vivus in ac luzem sis en hortus erit. Humus in ero punctus superare labores.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir de Françoise Bonnardel qui nous parle de l'alchimie. Alors Françoise Bonnardel, vous avez choisi ces deux courtes fugues composées par Michael Mayer qui était un alchimiste.
Oui, tout à fait. Alors l'originalité de cet alchimiste, c'est qu'effectivement il a composé également ces fugues qui sont au nombre de 50, qui est aussi le nombre des vignettes de la Talente fugitive. Alors, Michael Mayer était le médecin personnel de l'empereur Rodolphe II, qui, comme on sait, s'intéressait énormément à l'alchimie. Et il a laissé des ouvrages, parmi lesquels la Talente fugitive, dont cette fugue est extraite, c'est un ouvrage qui parut en 1618, et des ouvrages qui sont remarquables, en particulier par leur iconographie, qui est due à Théodore de Brie. Et la singularité de la Talente fugitive, c'est que Mayer a cherché à reconstituer une sorte d'art total, en quelque sorte, en juxtaposant, mais dans une perspective synthétique, évidemment, des vignettes, donc ce qui fait appel à la vue, la fugue, donc ils font appel à l'oreille, et les textes à l'intelligence. En demandant au lecteur, d'ailleurs, d'essayer de percevoir simultanément ces différents aspects dans une perspective qui est celle, je dirais, de l'esprit même de l'alchimie. Je parlais d'art total et cette notion réapparaîtra chez certains musiciens, je pense à Wagner en particulier. Mais là, il s'agit de comprendre la spécificité de l'esprit hermétique.
Alors justement, on va reprendre notre conversation sur l'hermétisme. Vous nous avez parlé de Hermès, ce personnage mythique, mais qui avait cette fonction donc de messager entre le ciel et la terre. Quels sont les textes qui nous sont parvenus de l'Antiquité qui nous permettent d'avoir une connaissance de cette tradition hermétique?
Alors, l'ensemble des Hermetica, donc des textes attribués à Hermès, parmi lesquels, je l'ai dit tout à l'heure, le Corpus Hermeticum.
Et c'est apparu à quelle époque, ça? C'est-à-dire qu'on les connaît depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ ou c'est des découvertes
non,
plus tardives?
Non, la première compilation qui en a été faite se situe plutôt au 6-7e siècle. Mais ensuite, le fameux texte qui incarne l'esprit même de l'hermétisme, à savoir la table d'émeraude, a été connu aux alentours. Il y a la première version arabe qu'on en a est autour du 9e siècle.
Mais on n'a pas d'auteur de l'Antiquité, qu'il est, c'est-à-dire antérieur, disons, au 2e, 3e siècle de notre ère, qui ait cité ces textes.
Non. Par contre, il y a un énorme corpus des alchimistes grecs qui a été traduit au XIXe siècle par Marcellin Berthelot. donc la collection des alchimistes grecs.
Mais la table d'émeraude n'est pas présente dedans, par exemple.
Elle n'est pas présente,
donc
effectivement.
Donc elle a peut-être été écrite ultérieurement.
On pense qu'elle a une origine arabe.
Alors Lélie Anvar, bonsoir.
Bonsoir.
Justement, ce serait intéressant que vous puissiez nous lire ce texte fondateur du corpus hermétique qui est la table d'émeraude.
Oui, absolument, qui d'ailleurs est un texte hermétique, comme son nom l'indique. Et juste peut-être avant, je voudrais vous citer, parce que vous présentez bien sûr dans votre anthologie de textes alchimiques, vous présentez ce texte de la table d'émeraude. Vous dites bien en fait qu'il est la quintessence de la révélation hermétique dans sa double dimension spéculative et opérative. Et c'est ça qui est très intéressant. On va voir dans le texte que c'est même pas que ça commence par le spéculatif et que ça se termine par la pratique, mais les deux sont proprement mélangés. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre en permanence, on va de l'un à l'autre en permanence, l'un nourrit l'autre en permanence. Donc c'est très intéressant, à la fois sur un plan symbolique et sur un plan pratique.
Voilà, c'est la spécificité de l'art d'Hermès, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas assimiler ça à la relation, par exemple, entre science et technique aujourd'hui. C'est tout à fait différent. Le caractère opératif ne vient pas comme une sorte de technique qui confirmerait les spéculations scientifiques.
Oui, d'ailleurs, il faut vraiment, je crois, pour aborder ces textes, en tout cas c'est l'expérience que j'ai eue, se délester de ses préjugés cognitifs, si j'ose dire. C'est-à-dire
Absolument.
Ne pas du tout regarder les choses comme on a l'habitude de les regarder, en particulier en Occident, parce que les deux plans se mélangent, de même que le plan de la raison et de la révélation ne sont pas du tout opposés dans ces textes.
Absolument pas.
Et il faut l'accepter comme tel, contrairement à peut-être une certaine école de philosophie occidentale qui rejette ces textes au nom de la suprématie de la raison, ce qui, à mon sens, est une erreur, et je crois que vous le montrez très bien dans votre livre « La voie de l'hermétisme ». Et donc, pour revenir à cette table d'émeraude, je voudrais juste, avant de lire, peut-être donner quelques indications pour qu'on écoute l'émergence de ces thèmes hermétiques qui seront importants. Donc la présence des pierres précieuses, rien qu'avec le mot d'émeraude, la symbolique des couleurs, le retour du chiffre 3, parce qu'il va parler de ces trois plans philosophiques, mais ça se base aussi sur les trois règnes, hein, minéral, végétal, animal, qui correspondent au corps, à l'âme et à l'esprit. Donc ce chiffre 3 qui revient tout le temps. Attirer l'attention aussi sur le fait qu'il fait une relation sans cesse entre microcosme et macrocosme, et la circulation entre le ciel et la terre et le ciel, sans jamais les opposer, même si l'opération alchimique, in fine, revient à une séparation, dans le sens de purification. En tout cas, de séparer les matières pour mieux les saisir. Enfin, c'est l'impression que donne cette table d'émeraude.
Oui, mais pas les séparer au sens dualiste.
Non, pas du tout.
C'est-à-dire, il dit bien séparer le subtil de l'épais.
C'est-à-dire plutôt distinguer que séparer.
Distinguer, voir, voilà. Séparer pour mieux
c'est
voir.
C'est une discrimination au sens propre du terme. C'est une manière qui permettra, si vous voulez, de chercher la quintessence des choses.
Exactement. Et d'ailleurs, le texte commence sur la notion de vérité. Et peut-être, finalement, c'est la vraie clé pour comprendre ces textes. Tout est une question de vérité. La question, c'est trouver la vérité. Où est le vrai ? Il est vrai sans mensonge aucun et très véridique que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut comme ce qui est en bas pour que s'accomplisse le miracle d'une seule chose. Et de même que toutes choses ont procédé de l'un par la seule médiation de l'unique, ainsi sont-elles par adaptation nées de cette chose unique. Son père est le soleil, et la lune sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, et sa nourrice est la terre. C'est le père de tous les miracles du monde, intègre sa puissance, si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement et avec grande habileté. Elle s'élève de la terre vers le ciel, puis redescend en terre et reçoit l'énergie des réalités supérieures et inférieures. Ainsi gagneras-tu la gloire du monde entier et toute obscurité s'éloignera de toi. C'est là de toute force la puissance suprême qui dominera toute réalité subtile et pénétrera tout corps solide. Ainsi le monde a-t-il été créé. Les applications en seront dès lors merveilleuses selon les modalités que voici. C'est pourquoi moi, Hermès, détenant les trois parties de la philosophie du monde entier, suis avec raison appelé trismégiste. Ainsi est accompli ce que je dis quant à l'opération du soleil.
Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que dans ce tout début, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et réciproquement pour que s'accomplisse le miracle d'une seule chose, c'est finalement une pensée du microcosme et du macrocosme qui a inspiré quantité d'autres disciplines, je pense à l'astrologie et bien d'autres.
Bien sûr. Bien sûr. Alors ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. En effet, Michael Mayer, d'ailleurs, dont nous venons d'entendre une fugue, dit, et c'est banal dans le contexte hermétique, il dit « l'homme est un abrégé de l'univers ». Bon, ça veut donc dire que il y a des correspondances dont le déchiffrement va s'imposer à l'hermétiste et à l'alchimiste, entre le haut et le bas, le ciel et la terre, mais que toutes ces correspondances, toutes ces analogies, toutes ces similitudes permettent non seulement un déchiffrement de l'unité qui existe entre ces deux dimensions, mais permet aussi de s'engager dans ce processus de purification. Donc, c'est une certaine vision de l'homme, effectivement, qui sera remise en cause radicalement par une vision scientiste et matérialiste de l'univers. Et ce qui m'a personnellement plus qu'intéressé, je dirais sollicité et mobilisé dans cette philosophie, c'est que c'est une vision non matérialiste de la matière. Il ne s'agit pas de s'échapper du monde, il s'agit de le transformer et de l'illuminer.
Oui, c'est une vision, on pourrait dire, non réductionniste de la matière.
Voilà.
C'est une vision matérielle, mais pas matérialiste au sens où on l'entend.
Mais pas matérialiste au sens
que... C'est une vision spiritualiste de la matière, on pourrait presque dire.
Oui, mais ce n'est pas un spiritualisme non plus.
Évanescent, c'est-à-dire qu'on prend à bras-le-corps la matière pour montrer que cette matière, finalement, en étant transformée, elle accomplit aussi elle-même une possibilité d'accomplissement.
Elle fait partie du processus
global d'accomplissement de toute la création.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Mais alors, il y a quelque chose qui est très intéressant sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a une pensée effectivement scientifique, moderne, qui a discrédité complètement l'alchimie. Mmh. Et en même temps, on assiste aujourd'hui plutôt à travers un certain nombre, on va dire, de médecines douces, je pense à l'homéopathie, par
Bien
exemple,
sûr.
Qui réhabilite un peu la pensée alchimique.
Absolument. Alors, c'est très important ce que vous rappelez là, parce qu'on oublie un peu vite qu'il y a eu non seulement des alchimistes médecins,
et
des médecins alchimistes, Paracelse bien sûr, c'est à lui qu'on pense tout de suite, mais il y a eu une longue tradition de médecins alchimistes. On les a un peu oubliés, mais quelqu'un par exemple comme David de Planiscampi, qui était quand même médecin du roi en France, Pierre-Jean Fabre, qui était un médecin célèbre à son époque, qui exerçait à Montpellier. Donc il y a toute une tradition de la médecine alchimiste en Occident, qui effectivement a des points communs avec l'homéopathie, toujours contemporaine, bien sûr, et que cette tradition n'est pas sans rapport, alors non seulement avec l'homéopathie, mais avec certaines médecines asiatiques.
Et oui, on pense à la médecine chinoise,
bien
tibétaine,
sûr, bien sûr.
Mais il y a aussi, dans toutes ces traditions asiatiques, aussi une très grande importance de l'alchimie.
Oui,
il y a une
alchimie
chinoise,
on
retrouve cette tradition-là un peu dans toutes les cultures du monde.
Exactement, et alors je dirais même que c'est un argument qui me paraît invalider les propos de ceux qui considèrent que l'alchimie n'est qu'une folie qui a fait son temps et que sa résurgence risquerait même d'être la preuve d'un obscurantisme récurrent. Il me semble que l'existence même d'alchimie babylonienne, grecque, arabe, occidentale, asiatique, indienne, tibétaine, etc., tend tout de même à prouver qu'il y a là une sorte, sinon d'archétype, tout au moins de modèle, de pensée et de pratique dont on ne peut pas faire l'économie sans supprimer, je dirais, une dimension de l'expérience humaine.
Oui, c'est quelque chose d'universel qu'on retrouve partout
voilà.
et qui a continué d'exister dans d'autres cultures moins marquées par, évidemment, la science occidentale, même si actuellement, on peut dire que le matérialisme, l'esprit matérialiste ouais. occidental s'est mondialisé. Mais il y avait encore, j'ai rencontré, moi, oui. Par exemple, chez des exilés tibétains,
bien sûr.
Des gens qui pratiquent encore l'alchimie.
Absolument. Alors, il y a deux aspects à cet égard. Il y a ce qu'on a appelé l'alchimie interne et l'alchimie externe. L'alchimie externe, c'est la préparation, par exemple, d'un certain nombre de remèdes selon des procédés qui s'inspirent des opérations alchimiques, alors avec des règles qui peuvent varier selon les cultures. Mais la médecine tibétaine, moi je sais aussi pour avoir rencontré quelques très grands lamas médecins, en particulier Trogawa Rinpoche, qui était un des derniers très grands médecins tibétain, eh bien, fabriquait des remèdes alchimiques, si l'on peut dire. Bon, et puis alors, il y a toute ce qu'on a appelé l'alchimie interne, qui est beaucoup plus développée en Asie, alors pour cette fois-ci, beaucoup plus développée en Asie que en Occident. Autrement dit, cette loi d'analogie que l'on a évoquée, elle a connu des traitements différents en Occident et en Asie.
Qu'est-ce que vous appelez l'alchimie interne ? C'est la transmutation ?
Alors, l'alchimie interne, c'est, je dirais, le fait de prendre au sérieux et de prendre au pied de la lettre le rapport microcosme-macrocosme. À savoir que si l'homme est à l'image du macrocosme, en tant que lui microcosme, cela veut dire qu'on peut arriver à pratiquer une alchimie sur le corps humain lui-même. Et là, il faut bien dire que l'alchimie occidentale a, je dirais pas négligé, mais en tout cas, elle n'a pas la même richesse de pratique que l'alchimie asiatique. Et je pense en particulier au tantrisme.
Voilà, c'est-à-dire que là, il y a des exercices, on pourrait dire psychocorporels.
Tout à fait.
Qui par la méditation, etc.
Yoga, méditation, le Vajrayana tibétain.
Voilà, ce qu'ils appellent l'alchimie des émotions, par exemple. C'est une forme de transmutation, ou c'est en tout cas un symbole de ça. C'est-à-dire une transmutation d'un certain nombre d'émotions négatives en émotions positives. C'est donc un travail de perfectionnement. Voilà. En travaillant sur la psyché.
C'est alors sur la psyché et pas seulement, c'est-à-dire sur le corps subtil, parce que c'est un yoga. Donc l'alchimie asiatique, pour simplifier, est allée de ce point de vue-là plus loin que l'alchimie occidentale, parce qu'elle a élaboré un ensemble de pratiques qui s'apparentent au yoga, pour la plupart, et à la méditation, dans le cadre du Vajrayana tantrique en particulier, qui permettent la fabrication, en quelque sorte, d'un corps de diamant, c'est le Dharmakaya ou le Vajra, et à cet égard, on peut parler d'une alchimie interne en rapport avec ses pratiques.
Thank you. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Françoise Bonnardel qui nous parle de l'alchimie. Je rappelle que vous avez publié récemment une anthologie de textes alchimiques qui s'appelle Philosopher par le feu. Et puis la réédition de votre très beau petit livre, La Voie hermétique, introduction à la philosophie d'Hermès. Alors nous poursuivons cette conversation. Et il y a une question que je voulais vous poser, parce qu'il y a un vocabulaire alchimie qu'on connaît un peu, notamment par la littérature. Mmh. Et je voudrais que vous l'explicitiez. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre au blanc et l'œuvre au noir ?
Alors, cela fait référence à des couleurs. On retient en général le noir, le blanc et le rouge. Des couleurs qui ponctuent le processus de transformation de la matière. Donc, on a retenu ces trois couleurs principales. Les alchimistes en détectent. Avec l'attention scrupuleuse qui est la leur, ils en détectent de plus nombreuses. Mais enfin, restons-en à ces trois principales. Donc, ce sont des stades décisifs de la transformation de la matière. Alors, l'œuvre noire, titre évidemment du roman de Marguerite Yourcenar, qui au fond n'a pas grand-chose à voir avec l'alchimie spécifiquement. C'est un titre magnifique et un roman magnifique. Mais bon, il est question d'un sage qui pourrait être un stoïcien aussi. Bon, l'œuvre noire fascine particulièrement les esprits. Parce que on voit là, alors, soit une sorte de descente aux enfers, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, soit une sorte de pacte plus ou moins trouble avec des puissances des ténèbres, soit une confrontation à la mort, ce qui est le cas. Donc effectivement, l'œuvre noire est une phase décisive du processus de transmutation, parce que c'est une mise à mort symbolique et opératoire de la matière, et les alchimistes la décrivent soit comme une décapitation, soit comme un démembrement, soit comme une dilacération, enfin une sorte de décomposition. C'est la nuit, et c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait de Schoenberg, c'est la nuit, mais une nuit qui sera transfigurée par une aurore naissante, une renaissance à partir de la nuit. Donc au fond, c'est l'expérience, on a souvent fait le rapprochement, mais c'est quelque chose comme l'expérience d'une nuit obscure chez les mystiques.
Oui, ou ce que dit Jung quand il dit que finalement, il faut traverser l'enfer de ses passions pour les avoir surmontées.
Absolument. Donc je crois qu'il faut absolument garder à l'esprit que c'est une épreuve sacrificielle, difficile, dangereuse et douloureuse. Mais, pour ajouter aussitôt que ça n'a rien à voir avec une espèce de compromission malsaine avec les puissances des ténèbres, diaboliques ou autres.
Bon, oui, parce qu'il y a quand même une idée populaire que l'alchimiste est celui qui passe un pacte avec le diable. Alors, dans tous les mythes de Faust, que ce soit chez Goethe ou ailleurs, il y a quand même cette idée que celui qui veut découvrir le secret de l'alchimie est quelqu'un qui va devoir faire le pas de faire un pacte avec le diable, rivaliser avec Dieu en quelque sorte, puisqu'il va vouloir refaire cet acte créateur de Dieu, réintégrer dans le microcosme le macrocosme, enfin que sais-je. Mais il est vrai qu'il y a une connotation diabolique quand même dans la littérature et dans les croyances
populaires. Oui, absolument, mais le Faust de Goethe, si génial soit-il, est une expression d'une sorte de déjà de décadence de l'esprit alchimique. Il n'y a absolument pas de pacte quelconque. Bien au contraire, puisque la plupart des traités alchimiques commencent ou terminent, peu importe, par l'expression « Deo concedente », c'est-à-dire « si Dieu veut », au fond, à la grâce de Dieu, hein, avec l'aide de Dieu. Donc, les vrais alchimistes placent leur œuvre, leur travail, sous le signe d'une soumission, au contraire, à Dieu. Et, au fond, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est qu'ils mettent en œuvre la matière, mais ils considèrent que sans l'aide de Dieu, ils ne peuvent pas parvenir à sa finalité. Donc il y a là une sorte de leçon d'humilité qui n'a absolument rien à voir avec ce fameux pacte qui est une version moderne et prométhéenne, c'est-à-dire c'est le moment où l'homme veut devenir maître et possesseur de la nature. Or, l'alchimiste est au contraire celui qui non seulement sollicite l'aide de Dieu et la bénédiction en quelque sorte de Dieu, mais qui met en œuvre un processus dans un total respect de la nature. Et ça, je crois que c'est très important. Tous les traités insistent là-dessus. C'est la nature qui est le guide, l'inspiratrice. Et d'ailleurs, on parle du grand livre de la nature. Donc, c'est en apprenant à lire ce grand livre de la nature qu'on parviendra, Dieu le veut, à cette réalisation.
Et à déchiffrer les secrets du Créateur. Ce qui était d'ailleurs l'ambition des premiers scientifiques chrétiens. Newton n'avait pas d'autre ambition que en déchiffrant les lois de la nature, le grand livre de la nature, donc il s'inspirait de tout ce vocabulaire alchimique, de comprendre les lois mystérieuses qui gouvernent le monde. Et donc, convaincu que ce Créateur avait placé des lois subtiles, il a cherché à les comprendre, et la science moderne est née comme
ça. À les comprendre, tout à fait. Et justement, l'alchimiste cherche à reproduire en vase clos l'acte créateur. Mais ça n'est pas dans une perspective démiurgique, c'est dans une perspective de louange, au contraire, à la perfection de la création et à la possibilité pour l'homme d'imiter à sa manière cette perfection, mais afin de la porter...
Oui, poursuivre aussi l'œuvre du Créateur.
Poursuivre l'œuvre du Créateur et la porter à un point d'accomplissement et de rayonnement, en quelque sorte.
Et l'œuvre au blanc ?
Alors, l'œuvre au blanc, c'est une phase intermédiaire entre le noir et le rouge. Si vous voulez, la partie de l'œuvre, disons, qui est dominée par la lune et pas par le soleil. Donc, si on considère qu'il n'y a pas d'alchimie sans un mariage du soleil et de la lune, du soufre et du mercure, du roi et de la reine, eh bien dans l'œuvre au blanc, c'est, disons, la dominante lunaire. C'est la première phase de purification de la matière qui est associée à l'œuvre de femme et jeu d'enfant, selon les textes, et, disons, qui est dominée par la lune, l'argent, et alors que l'œuvre au rouge sera solaire et royale.
Alors, vous évoquez le fait qu'il y avait toujours cette dimension très forte de foi qui est présente, foi religieuse, qui est présente chez les alchimistes. Certains courants alchimiques ont été un peu en marge des institutions et des religions, d'autres non, ont été tout à fait intégrés aux différents courants religieux officiels, et même à la Renaissance, je crois que un certain nombre de papes, de cardinaux, tout ça, se sont passionnés pour l'alchimie, c'est-à-dire que l'alchimie était à la mode, de même que l'astrologie. Il y avait toute une série de courants qu'on dirait aujourd'hui ésotériques ou occultes qui fascinaient, je dirais, les esprits religieux de la Renaissance.
Alors il y a eu un certain nombre de hauts dignitaires, qu'ils soient religieux ou princes, empereurs, rois, etc., qui ont installé des laboratoires dans leur palais. J'ai cité tout à l'heure Rodolphe II, mais il n'est pas le seul. Alors leur motivation, était sans doute un peu complexe, parce que il n'est pas exclu non plus qu'ils aient souhaité s'attribuer les services d'un alchimiste aussi pour fabriquer de l'or et renflouer les caisses de l'État.
Et ça, on n'y est jamais parvenu, à votre connaissance.
Alors, ça, c'est une question très controversée, effectivement. On s'accorde à reconnaître aujourd'hui que c'est pas la possibilité de la transmutation qui est tellement en cause, parce qu'il semble qu'il y a des médailles et il y a de l'or alchimique, mais c'est le coût. Aujourd'hui, on considère que ce serait démentiel de continuer à essayer de transmuter la matière de cette manière. Alors, bien sûr, il y a eu de hauts dignitaires qui s'y sont intéressés, mais je crois que ce qui est peut-être plus important encore de rappeler, c'est que l'alchimie a informé au sens propre du mot. Elle a structuré toute une vision du monde entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et que donc, l'alchimie, de ce point de vue-là, a été d'une extraordinaire fécondité créatrice. Elle a inspiré l'iconographie, elle a inspiré la littérature, elle a produit une œuvre considérable. Je crois qu'on ne réalise pas l'importance de la littérature alchimique. C'est énorme. Il y a des quantités de textes qui ne sont pas encore traduits, qui le seront peut-être probablement jamais d'ailleurs. Bon, donc il y a une vitalité de l'esprit alchimique qui m'a beaucoup frappée personnellement et qui m'a d'ailleurs incitée à essayer de montrer, j'espère y être parvenue, que cet esprit d'alchimie avait perduré au-delà de l'acte de décès officiel de cet art.
De quelle manière ?
Ben, elle a perduré justement chez les artistes. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'il y a, à partir du XVIIIe siècle, au moment même où on s'accorde à reconnaître que l'alchimie n'est plus qu'une sorte de vestige du passé, dans sa dimension opérative en tout cas, il y a une extraordinaire floraison de création qui s'inspire de l'alchimie. Donc, je pense que il faut aussi prendre en compte le fait que l'alchimie a toujours été un art des métamorphoses et que les métamorphoses continuent en quelque sorte. Et bon, ça c'est un autre aspect, me semble-t-il. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais dire quelques mots. Je viens de parler de l'esprit de l'alchimie. Or, je crois qu'il y a quelque chose de très particulier. Nous avons beaucoup parlé des correspondances, de la loi d'analogie, etc. Mais il y a quelque chose qui est très spécifique et dans toutes les alchimies, d'ailleurs, appartenant à des aires culturelles et spirituelles, c'est en fait, et je reprends l'expression d'un commentateur de l'alchimie qui a publié sous un pseudonyme d'ailleurs, et qui est en fait le théologien Olivier Clément, qui parlait de sauver l'homme par les moyens mêmes qui causent ordinairement sa perte. Ça veut dire que c'est une méthode de retournement des actes. Et ça, on trouve cette caractéristique aussi bien dans l'alchimie occidentale que dans les alchimies asiatiques, et en particulier dans le bouddhisme tantrique du Vajrayana. Et c'est ça le sens profond au fond de l'œuvre au noir. C'est qu'au moment même où vous êtes véritablement confronté à la désespérance, à la mort, à ce qu'on peut imaginer de pire, eh bien, il peut y avoir, et c'est ça qui est mystérieux, parce qu'on ne sait jamais à quel moment les choses se retournent. Et puis, parfois, elles ne se retournent pas du tout. Mais il peut y avoir, si on a une disposition d'esprit qui le favorise, un retournement, en somme, de ce qui devait causer la perte. Et personnellement, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je dirais que c'est cet état d'esprit qui est à la base de l'universalité de l'esprit alchimique et de son lien d'ailleurs avec les grandes religions. Les grandes religions le disent autrement, mais elles le disent aussi.
Oui, d'ailleurs, dans le dogme chrétien, on retrouve cette idée effectivement que la croix, la croix qui est une abomination, c'est la cause du salut.
C'est
un retournement.
Et c'est l'espoir. Hein,
voilà, et ça devient l'espérance de la résurrection. Et donc, le salut est opéré par la croix. C'est quand même incroyable comme idée.
Eh bien, ça, c'est une idée fondamentalement alchimique. À savoir que c'est par l'expérience de cette noirceur, mais à condition qu'il n'y ait pas de complaisance, n'est-ce pas ? C'est pas une sorte d'attrait morbide. Mais si on accepte ce dépouillement, parce qu'en fait c'est une ascèse, c'est un dépouillement, c'est l'acceptation effectivement de cette perte, eh bien on peut espérer un retournement, mais à condition de ne pas le faire dans la perspective d'obtenir quelque chose. Donc je dirais que l'alchimie pousse jusque dans ces derniers retranchements cette expérience de la perte, en fait.
Lélian Var, je pense que dans la tradition musulmane que vous connaissez très bien, l'alchimie, donc, et nous l'a rappelé Françoise Bonnardel, est très importante. De quelle manière elle s'exprime?
Alors, elle s'exprime de manière extrêmement variée, effectivement, avec toutes ces connotations qu'on a vues dans le monde occidental, qu'on retrouve dans le monde musulman, mais peut-être c'est moins associé à toutes ces opérations entre guillemets magique, hein. C'est-à-dire que dès le début, il me semble que la question est posée de la connaissance, c'est-à-dire que vraiment l'alchimie est un mode de connaissance. Mmh. Et je crois que d'ailleurs toute la science islamique est tournée vers cela, c'est-à-dire que ce qui intéresse les savants musulmans, au premier chef, c'est vraiment de connaître la nature, parce que par la connaissance de la nature, on arrive à la connaissance de Dieu. Ce n'est pas du tout dirigé vers
la transformation
etc. Du plan même nord. S'il y a eu aussi des princes qui ont eu à leur service des alchimistes pour renflouer les caisses de l'État aussi, ça c'est certain. Mais l'autre point intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, Pierre Laury a écrit un très beau livre sur justement l'alchimie en terre d'islam, et il appelle ça justement alchimie et mystique en terre d'islam. Oui. Et il montre que dès le début, l'alchimie est perçue par les grands penseurs musulmans comme un lieu en fait hautement spirituel, c'est-à-dire ces transformations ne sont que les symboles de la transformation de la matière du soi. Plus tard, Baudelaire dira « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». C'est exactement ce que vous disiez.
Oui, oui.
Et il y a vraiment cette idée que l'alchimie, c'est avant tout cette science qui permet de transformer finalement la matière de ténébreuse dans laquelle descend l'âme nécessairement en quelque chose de luminescent, donc quelque chose qui retrouvait en réalité la nature lumière de l'être humain. Donc les transformations sont de cet ordre. Et l'autre point intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le corpus alchimique, alors il y a un corpus très important qui est celui que vous citez d'ailleurs dans votre anthologie, qui est le corpus qu'on appelle le corpus jabérien, celui de Jaber ibn Hayyan. On ne sait pas exactement qui il était. Probablement quelqu'un qui a vécu au 9e siècle, certainement un chiite, et ça c'est le point important, c'est que dans l'alchimie a été beaucoup développée dans les sectes, les branches chiites. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, il y a quelque chose de secret dans le chiisme, il y a cette idée de secret, quelque chose d'hermétique, peut-être à ne pas mettre entre les mains du vulgaire non plus. Il y a cette idée.
Corbin fait très souvent référence à la thématique alchimique à propos de l'expérience spirituelle du Tavil.
Absolument.
Le parallèle entre le Tavil et l'alchimie est très fréquent sous la plume de Corbin.
Tout à fait. Et l'idée dans l'islam, c'est que celui qui détient la clé de l'alchimie, c'est quand même le premier imam, qui est l'imam Ali. En tout cas, là, j'ai choisi un texte justement de ce corpus jabérien, puisqu'on ne sait pas si vraiment... Il est un peu comme Hermès, un peu mythique.
Identité multiple.
Exactement. Qui dit que, justement, il explique dans son introduction ce qu'il entend par alchimie et ce qui, pour lui, est important dans cette science alchimique, même s'il la pratique réellement. C'est-à-dire, chimiquement, il fait des opérations, mais l'idée finale, c'est quand même de se transformer soi-même. J'ai observé que les gens qui s'étaient consacrés à la recherche de l'élaboration artificielle de l'or et de l'argent étaient dans l'ignorance et l'erreur la plus totale. Constatant qu'ils se partageaient en deux catégories, les dupeurs et les dupés, j'ai eu pitié des uns comme des autres, qui gaspillent inutilement les biens que Dieu leur a accordés, fatiguent en vain leur corps et négligent l'exercice d'un métier honnête et considéré comme la pratique des actions pies qui sont l'irremplaçable viatique des croyants au jour du jugement. J'ai eu pitié de ces illusionnés qui épuisent leur corps et leur richesse à longueur de journée au détriment de leur vie religieuse afin d'obtenir quelques faibles avantages de ce bas monde. Leur lamentable état m'a inspiré compassion. Les guider dans la bonne voie et les détourner de ces activités est une bonne action dont j'espère rétribution de la part de Dieu qui dispense tout bienfait et toute sagesse. Le sens propre de l'œuvre alchimique, c'est de donner naissance au corpus glorificationis, à cet être nouveau que désignent des centaines de noms et d'images différentes. Cette opération ne se sépare pas des matières sensibles qu'elle traite. L'alchimie est une forme d'ascèse, projetant son dessein dans les corps naturels pour l'intérioriser alors et fondre et mouler simultanément dans l'intime de l'adepte le corps mystique de la résurrection, exempt de toute impureté.